Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. On pourrait dire que c'est un omni, un objet musical non identifié. Son visage est d'ailleurs masqué et sur la pochette de son nouvel album, son incarnation prend des allures de Don Quichotte sur une rossinante hallucinée. Un peu punk, un peu rap, un peu électropop, avec un soupçon de reggae, un projet vraiment singulier, musical et graphique, et une atmosphère dans laquelle la mort flirte avec l'autodérision. Singulier cocktail que celui de Stupéflip dans ce cinquième album, 5 ans après. King Ju est avec nous pour nous présenter Stup Forever. L'album est sorti chez Dragon Axel Modulor, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous avez 3 nouveaux messages. Jeudi 10 juin à 10h34.
Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés. Y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
c'était trop gentil, maintenant fini de se faire avoir.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
C'était trop gentil,
que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Dans ton baladeur Stupéflip sur RFI, un morceau à devenir chèvre, hein, si j'en crois les toutes dernières secondes. King Ju, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre baladeur, quand on parlait encore de baladeur, d'ailleurs, en gros, les années 80-90, quoi.
80, moi j'ai commencé plutôt par les vinyles, en fait, même si j'en achète jamais. J'étais allé au centre commercial dans le 13e, à côté de chez moi. Je savais pas du tout ce que c'était la musique, j'en écoutais pas du tout. Et on a acheté avec mon père un album de Bachung, qui s'appelle Figure Imposée, qui est un chef-d'œuvre, qui n'a jamais vendu de disque, cet album-là d'ailleurs.
Ouais.
Et aussi un album de Tom Waits au moment de Ren Dogs. Et après, j'ai acheté des vinyles des Residents, j'avais 14-15 ans. Voilà, donc j'étais après dans mon baladeur. À cette époque-là, j'écoutais plutôt des groupes comme Urban Dance Squad. Voilà, c'était la fusion à l'époque, on appelait ça. D'ailleurs, Stupéflip, c'est un peu de la fusion.
C'est un peu de la fusion. Alors, ouais. C'est un mot compliqué, la fusion, d'ailleurs, parce que
oui.
C'est très compliqué à définir. D'ailleurs,
bah ouais.
chacun des artistes a un petit peu sa propre définition. Quelle est la vôtre ?
Bon, la fusion, c'est... Bon, moi, j'aime la musique, en fait, en général. Quand on aime vraiment la musique, on aime tous les styles, c'est logique. J'aime pas les chapelles, même si j'écoute vraiment pratiquement que du hip-hop depuis 88. Mais j'aime pas trop les chapelles, donc je pense que quand on aime la musique et, entre guillemets, l'art en général, bah, on aime tout ce qui se fait, quoi. C'est logique. En fait, c'est
y compris le hip-hop d'aujourd'hui, parce que là, écoutez
oui.
la chanson, on commence à peut-être un peu
avoir
des doutes,
si, si. Moi, je soutiens à 200% le hip-hop d'aujourd'hui. Hein. Parce que c'est la seule musique qui est encore vivante. La seule. La pop, pour moi, bon, le rock. Le hip-hop, ça se réinvente sans arrêt. Bon, il y a les fondamentaux qui sont un peu la rue, quoi, la banlieue, tout ça, la vente de shit, tout ça, ça c'est un peu des trucs récurrents.
Ouais.
Mais musicalement, ça se réinvente sans arrêt. Maintenant, le hip-hop, il est très très lent. Il est deux fois plus lent qu'avant. Donc les mecs rappent da-da-da-da-da-da-da-da-da. Et d'ailleurs, avec Stupéflip, à l'époque, je me disais, comment faire pour rapper sur un truc très très lent ? Ça y est, ils l'ont créé. Ça s'appelle la drill. Si vous connaissez un peu le rap, c'est un nouveau mouvement qui s'appelle la drill, qui est très 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 lent. Et c'est ça qu'écoutent les jeunes. Hein.
Alors comment est-ce que vous réinventez à Stupéfip ? Parce qu'on vous imagine peut-être un peu geek, pas trop peigné, pas ouais. rasé, à passer des nuits en pyjama avec votre guitare, votre ordi et votre boîte à rythme. Ça se passe comme ça ?
C'est exactement comme ça, sauf que j'ai pas de pyjama. Quoi.
Ah, d'accord. Ça travaille en solitaire la composition, parce que vous êtes d'abord un compositeur. Ouais. Quoi. On a entendu la première, la première chanson, la mélodie, elle claque tout de suite à l'oreille.
Moi je fais de la musique, c'est-à-dire on dit pas j'ai un groupe de texte ou on dit j'ai un groupe de musique. Donc moi je fais de la musique. Ce qui m'intéresse c'est les pieds caisses claires, les mélodies, les montages sonores, tout ce qui est personnage, exposition médiatique, texte même. M'intéresse beaucoup moins, en fait.
Alors, c'est quoi un bon instru, Guingju ?
Un bon instru, c'est d'abord une bonne rythmique. C'est d'abord un beat qui tourne bien. Voilà.
Tout simplement.
Ouais,
donc, travail, tout simplement, mais en même temps, gros travail. Quoi. Gros travail. Tout ce qui est simple est compliqué, en fait,
non, mais en fait,
artistiquement parlant.
C'est-à-dire, moi, il faut comprendre, j'ai pas mal galéré avant 2000. Avant l'année 2000, j'ai vraiment galéré des années. Donc, je sais ce que c'est que de galérer, de pas savoir où on va et de pas pouvoir payer le loyer. Et à un moment, en fait, il a fallu que je m'en sorte, quoi. Et j'ai acheté un ordi avec toutes mes économies que j'avais depuis des années. J'en avais peu, mais j'ai acheté un des premiers ordis. Et à un moment, il fallait que je ponde quelque chose. Et en fait, Stupéflip, c'est né comme ça. À un moment, il fallait que je m'en sorte. Le problème, c'est que c'est 20 ans après, je suis resté dedans, la tête dans le guidon sans arrêt. Et j'ai pas eu vraiment de vie, en fait. Parce que j'ai toujours eu la peur de pas m'en sortir, en fait. Parce qu'on sait ce que c'est que les milieux de la musique. Surtout que moi, je veux pas tourner, je veux pas faire de concerts. Donc, il faut quand même que ça marchouille un peu, quoi.
Bon, mais alors, et Cadillac et Salo, ils sont avec vous pour vous aider à composer ? Parce que vous disiez l'instant que c'est un travail en solitaire, ils arrivent à quel moment ?
Non, ils arrivent à la fin, en fait.
À la fin.
En général, ils ont deux couplets chacun, mais leurs interventions sont hyper connues des fans et ils ont des punchlines très connues des fans.
Bon, c'est pas des avatars de Kingju.
Ah non, pas du tout.
Ils sont en chair et en os, c'est en cagoule aussi, non ?
Ouais, non. Eux, ils ont leur personnalité, leur texte, qui est incroyable d'ailleurs. En fait, c'est mes vieux amis. Voilà quoi. Et ils viennent gentiment dans les stup albums à la fin. En fait, c'est comme ça depuis le début. Cadillac en concert a été très important. Parce que moi, en fait, je voulais pas en faire de concert. Et comme Stupéflip, c'est hurler. Moi, je hurle pratiquement tout le temps. Fallait aussi quelqu'un qui back mes voix, quoi. Donc au début, Cadillac, c'était ça. Mais il était aussi dans le truc dès le début. Voilà.
Alors, et puis un autre compagnon, peut-être dans votre travail de composition, Kingju, c'est Le Joint, parce qu'il y a une chanson sur cet album, ça s'appelle Tellement Bon, dans lequel vous dites en gros que sans Le Joint, il n'y a rien.
C'est terrible, c'est qu'en fait, ma propre maman me dit si tu arrêtais de fumer, tu serais aussi créatif, mais c'est pas vrai.
Moi, vous avez besoin de ça pour créer.
Non, mais moi j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans pendant 1 an et demi. Et le jour où j'ai refumé, j'ai eu 1 milliard d'idées dans ma tête. C'est-à-dire, en fait, c'est marrant, j'ai lu un mec très connu, là, récemment, qui est passé sur une grosse radio. Je ne me rappelle plus qui c'est. Mais il a dit oui. Ah, c'est Lucchini. Il a dit oui, les joints, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre la perception. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire, il ne faut pas en abuser. Je déconseille les drogues. Hein. Mais peut-être les joints usés d'une façon parcimonieuse. Enfin, moi, j'en ai besoin pour créer, c'est terrible. C'est-à-dire, sans joints, j'ai 10 fois moins d'idées et je suis 10 fois moins excité que quand j'ai fumé. C'est ça qui est dramatique, hein, parce que moi, si je continue comme ça, je vais clamser. Hein.
Bon, en tout cas, sans faire l'apologie de quelque substance que ce soit, c'est un bon remède pour créer, dites-vous. Et c'est aussi pour...
Ouais.
Ça aide aussi à rester cool, quoi, pas s'énerver, à contrer les gens qui s'énervent, si vous voulez.
Ouais. C'est-à-dire, moi, je peux être un peu speed, je me bouffe les doigts depuis des années, je suis un peu nerveux rentré, et j'avoue que fumer, ça me calme. Maintenant, il ne s'agit surtout pas de faire l'apologie. Moi, je dis aux jeunes, surtout, de jamais commencer à fumer, surtout. Voilà.
Écoute celle-là, écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort.
J'étais à la supérette en train de faire mes courses et y avait une longue queue de 3 km, man. Et il y avait une petite dame devant moi. Et devant elle, une espèce de connard qui lançait déjà des mauvaises vibes, man. Et là, il y a une autre caisse qui se libère. Alors la petite dame, elle y va, il commence à lui gueuler dessus.
C'est à moi, c'est mon tour, t'as compris,
quoi. Je lui dis, oh, doucement, man. Un mal élevé, man.
Ce sens, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. Les caractériels chez moi ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort.
J'étais dans une soirée parisienne genre pince-fesse, tu vois le genre. Et là on me présente un comique assez connu, man. Le mec était en mode précieuse ridicule. Et là je lui dis, man, je suis musicien et je viens de refuser un Bercy, man. Pas méchamment, man. Et là direct une gueule dessus.
Quoi, t'as pas le droit de dire ça, à ce moment-là moi j'ai refusé un Olympia.
Après on me dit qu'il galérait pour trouver des dates. Mais c'est pas mon problème, man.
C'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor.
Sacrilège.
T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort.
King Ju, qui est donc devenu King Ja, pour prêter la, pour prêcher la, la coolitude à tous les gens qui s'énervent, ça sent le vécu là, ouais. King Ju. Hein. C'est du quotidien que naît comme ça une chanson comme celle-ci ?
Oh bah, je pense que tout ce qu'on appelle les artistes, j'aime pas trop le mot, mais ils font tous plus ou moins ça, hein. Ils s'inspirent tous plus ou moins du quotidien.
Mais là, vous racontez une histoire. D'ailleurs, l'album, en lui-même, on a presque l'impression d'une sorte de recueil de nouvelles comme ça.
Oui, oui.
Vous êtes un raconteur d'histoire aussi, même si le texte vient après la musique.
Alors, c'est pas ça, c'est que le dernier album, Stup Virus, j'étais pas très content parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas un album très réussi, je pense. Même s'il a marché, il a fait carrément disque d'or. Enfin, c'est pas... Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait plus de storytelling. Et les gens, ils aiment bien les histoires.
Bah oui.
Voilà, et j'avais complètement oublié
et
ça.
Donc c'est contraint et forcé, en quelque sorte,
non,
que
non.
Vous êtes mis à raconter.
Non, non, c'est juste, moi j'ai voulu en faire un autre parce que j'étais pas content de Stup Virus, qui était l'avant-dernier, donc il y a 4 ans. Et il fallait redresser la barre, c'est tout. C'est pour ça que j'en ai fait un autre.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous énervent, King Ju?
Ah non, 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 moi je m'énerve très rarement. Pour m'énerver, il faut vraiment y aller à la truelle. Oui, il y a certains youtubeurs politiques qui m'énervent, mais personne m'énerve en fait. Moi je trouve ça hyper mal élevé de s'énerver en fait.
Alors je le disais, hein, cet album, il est un peu construit comme un recueil de nouvelles. Il y a les chansons, il y a les interludes, il y a des instrus très longs, en particulier sur la dernière partie du disque. Vous accordez beaucoup de soins aux instrus, c'est pas seulement moyen de lier tout cela.
Non, c'est bien plus que ça. Moi, si je fais de la musique depuis le début, c'est pour les beats, les pieds, les caisses claires, les mélodies, les claviers. C'est vraiment pour ça que je fais ça, la basse. Tout le reste, ça m'intéresse beaucoup moins, les textes, les personnages. Moi, j'aime pas l'exposition, j'aime pas la starification. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté les concerts, parce que je devenais une espèce de gourou devant des milliers de gens qui hurlent. Et moi, je déteste ça.
Ça, c'est une décision irrévocable.
Bah, disons qu'il y a aussi qu'en France, on adore le texte, avec des trucs comme Jacques Brel, tout ça.
Ouais.
Et on est moins sensible à la musique, j'ai l'impression. Moi, j'essaye de faire des très bons morceaux, le meilleur possible. Il faut que la musique soit bonne. C'est un peu banal, ce que je dis là. Mais je trouve qu'en France, on manque de bonne musique dans les chansons. Par exemple, vous prenez tous les chanteurs français qu'on a maintenant, là, qu'il y en a des pas mal, mais au niveau mélodie, c'est toujours des ressucés de trucs qu'on a déjà entendus. Moi, j'essaie
de faire. On n'invente plus.
On n'invente plus. Je vous le dis, il n'y a que le hip-hop qui se réinvente. Il n'y a que le hip-hop qui est une musique encore vivante. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble toutes les autres. Elle ressuce toutes les autres et elle évolue. Maintenant, c'est très ralenti, le hip-hop. Alors qu'avant, dans les années 90, c'était plus rapide. Et ça reste de la musique. C'est-à-dire, on ne dit pas j'ai un groupe de texte, on dit j'ai un groupe de musique. On ne dit pas je fais du texte, on dit je fais de la musique.
c'est important l'ouverture d'un album, parce que là, c'est l'ouverture, on l'a passé en intégralité. 58 secondes, ouais. King Ju, c'est comme ça qu'on entre dans votre univers. Il y a un côté aventure, il y a un côté épique qui résonne d'ailleurs avec la couverture de l'album. Le graphisme, c'est aussi très important pour vous. Stupéflip, c'est un personnage?
Ben, Stupéflip, c'est-à-dire moi, je suis King Ju dans Stupéflip. J'ai un autre avatar qui est le plus connu, qui est Popip. Après, il y a Cadillac Salo. Après, j'ai 10 autres personnalités. Stupéflip, Stupéflip. J'ai un peu beaucoup joué avec tout ça. Par exemple, il y a un morceau où je disais, il est sympa, Stupéflip.
Ouais.
Mais bon, Stupéflip, Stupéflip. Voilà,
c'est bon, vous changez votre voix, vous changez votre flow. Il y a un petit côté un peu jeu. Il y a vraiment un côté comédien. Presque schizo parfois.
Mais c'est de la schizo contrôlée. Et surtout, moi, je fais joujou avec les gens depuis des années. C'est comme un grand jeu de piste. Et je leur dis c'est là, puis tout d'un coup ils se rendent compte que c'est ailleurs. Voilà, j'arrête pas de faire joujou avec eux.
Mais donc le masque, ça fait partie du personnage ?
Non, le masque c'est juste, moi j'ai pas envie qu'on me reconnaisse quoi. Par exemple là je suis venu en métro, c'est y a personne qui me reconnaît quoi, c'est trop bien.
Ah ouais, d'accord.
Quand j'étais tout petit, je suis allé au Guignol. Et je voyais les autres enfants qui riaient très très fort quand il y avait des coups de bâton. Et moi j'étais le seul enfant à ne pas rire. J'étais effaré de voir à quel point ce spectacle si violent pouvait les ravir de joie.
King Ju, ayant subi de sérieux traumatismes durant son enfance, se servira du gros stupéflip pour régler ses comptes avec la société.
Hey, 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 y a quelque chose là, non? Se passe quelque chose là?
Je suis le stup messager, l'oiseau quadricéphale, le super champignon qui pénètre ton encéphale. Je suis gardien du précipice, on ne sait pas ce qui s'y passe. J'infiltre ton espace sans sortir de ma carapace. Je suis l'énigme, le fou, la seule échappatoire, un ultime rempart aux catastrophes prémonitoires. Je suis le padré, le doc, le pacificateur. Je protège ma petite sœur, combatte la peur. Je suis pour, y a pas d'erreur, le stup tue. Sors les antibiotiques, suis avec précaution et à dose homéopathique. Je suis le fils de Kraou, je reviens du royaume des onze. Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre part d'ombre.
Moi c'est King Ju, c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos. Moi c'est King Ju, c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos.
Alors c'est où l'heure du stu? C'est quand l'heure du stu? À quelle heure? C'est maintenant, man.
Si la bic attaque, trappe lourd dans ta face, pas de truc lisse. Ici se fuit sur ta carcasse, t'en fais des qui est la classe. Y'a que ce truc un coup de slasse. Ta meuf à la peau grasse, trop de gloss sur sa face. Quelle pas ta caisse, fils. Fric et strass provoque du stress. Bande de bâtards, je me casse. Ils se la pètent dans leur caisse, leur klaxon sans la pisse. Pauvre alcoolisé, rate le concours de la police. J'ai ma parfaite pulsation pour apaiser les imbéciles. Quand putain de son passe, y'en a pas un qui bouge ainsi. Ils m'aident à l'esprit étriqué, tous hypocrites et détraqués. Je te jure que je vais les faire craquer comme Patrick Devers et Trinquant.
La seule vérité, c'est la mort, c'est que nous allons tous mourir. C'est ainsi que se termine ce 17e morceau de l'album, King Ju, Vengeance, hein, c'est le titre, avec 3 points d'exclamation, pas un de moins. Le clip dans ton baladeur qu'on a écouté au tout début de l'interview se passe dans un cimetière, et c'est vrai que la mort, elle est quand même omniprésente dans cet album. Vous y pensez tout le temps, à la mort, King Ju ?
Pas du tout. Moi, ce qui me fait peur,
vous faites un album dessus, mais vous y pensez pas.
Moi, ce qui me fait peur, c'est la vie.
Ah !
Eh oui.
C'est terrible, la vie.
Mais la vie est certainement bien pire que la mort, enfin, c'est une évidence.
Donc la mort vous rassure ?
Non, mais j'ai pas peur de mourir. Par contre, la dégénérescence, oui, c'est chiant. Maintenant, la mort est présente dans Stupéflip depuis le premier album. Hein. Ça commence par le Stupéflip Crew ne mourra jamais, le premier album. Et la mort est omniprésente. Moi, je trouve que la mort, c'est un des meilleurs sujets artistiques. C'est le plus, peut-être, avec l'espace.
Alors quand on ouvre la pochette de l'album, on a une image de tombe, et sur la cover il y a le mot vengeance, le mot est écrit sur le t-shirt que vous portez. Comment s'appelle l'artiste qui a fait la cover?
Ben, c'est moi en fait, et c'est la première fois que je fais une collaboration, parce que j'ai fait toutes les pochettes de Stupéflip, je fais aussi les logos, les t-shirts, non mais c'est du délire.
Donc le graphisme, les clips, l'image, la réalisation, c'est important, ça fait vraiment partie du projet, c'est un package.
Ah mais grave, moi j'ai fait des écoles d'art, j'aurais dû
faire... Vous avez fait les arts déco.
Oui, j'aurais dû faire de la BD normalement ou de l'illustration, mais pour en vivre c'est très difficile, mais je vais m'y mettre maintenant. Par contre, oui, en fait cet album-là quand même, faut préciser, On m'a pris en photo sur un vrai cheval. Après, j'ai changé la photo du cheval en peinture.
Oui.
Et j'ai travaillé avec un photographe qui s'appelle Yann Oran. Voilà. Qui voulait vraiment bosser avec Stupéflip. Et voilà, on a fait ça. Et je trouve qu'il y a une super définition pour une fois.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire votre univers graphique? Parce que là, on est à la radio. Évidemment, ouais. J'invite les auditeurs à aller voir la pochette, à aller voir les clips aussi. Surtout, ouais. Mais votre univers graphique, il y a un côté ciné d'horreur, il y a oui. un côté comics aussi.
Oui,
c'est,
oui.
Là aussi, c'est un peu de la fusion.
Ben moi, j'ai été élevé à ça. J'ai été élevé à Marvel, à Strange. D'ailleurs, vous avez vu maintenant les films qui sortent maintenant, rien n'a changé. Hein. Les films hollywoodiens, c'est encore Spider-Man. Mais moi, j'étais plus sur des trucs genre Titan. Je ne sais pas si vous avez connu.
Ah oui, absolument. Oui.
Et Titan, surtout, Strange, oui, je vais vous expliquer cette pochette. Surtout, Stup Forever, c'est un hommage aux pochettes de Strange qu'il y avait à l'époque. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ces pochettes en peinture, qui étaient des peintures refaites d'après les personnages, ont été faites par un père et son fils français. Je viens d'apprendre ça. Pendant des années, les pochettes qu'on avait de Strange ouais. dans les années 80, fin 70, c'était fait par des Français.
Voilà, voilà. Bah merci de m'avoir appris ça. Grâce à vous, j'ai aussi appris quelque chose. Merci beaucoup, King Ju, d'être passé nous voir dans VMDN. L'album Stup Forever de Stupéflip, disponible chez Dragon Axel et Modulor. Attention, tous aux abris, on se quitte avec le truc explosif.
Je remets le couvert, râteau, technique de karaté. Prosternez-vous tous devant le king qui a souvent tout raté. Le casse-pipe s'approche, moche comme un coup de taloche. Et qu'est-ce qui cloche quand ça claque? Et quand c'est louche, qu'est-ce que ça cache? On influence les esprits boueux. Le stup, c'est comme ta bouée. T'as chopé stup virus, alors au pieu, t'es cloué. Moi, je suis trop bizarre pour la masse. Le petit bonhomme en mousse, c'est un massacre de masse quand ils encaissent et se poussent.
C'est le truc explosif, le son qui te fait tomber les diffs. Mec, t'as pas l'étoffe, file une tarte de ton slip.
C'est le truc explosif,
le son qui te rend dans la truffe.
C'est le son qui te fait quitter le taf.
C'est le truc explosif,
le son qui te fait tomber les diffs.
Mec, t'as pas les toffes, file une taf de ton slip.
C'est le truc explosif,
le son qui te rend dans la truffe.
Prends la mouche, ferme ta bouche, mec, fais pas ta sainte ni douche. Le piste d'Azik est louche et c'est pour ça que j'évite les flashs.
J'ai trop de sticks dans ma poche,
y'a plus qu'à allumer la mèche.
Rasse garde, capac, fais pas partie de ces cons qui lèchent.
Toi tu t'attaches, yeux de biche, mon pas ma gueule comme c'est tâche. Check les stupapaches qui se cachent dans les appalaches.
Au fait que ça biche, t'aimes la fraîche et tu te sens les coups des franches.
Prends ça dans ta face et disparaît sous l'avalanche.
C'est le truc explosif,
le son qui te fait tomber les diffs.
Mec, t'as pas les toffes, file une tarte de ton slip.
C'est le truc explosif,
le son qui te rend dans la truffe.
C'est le son qui te fait quitter le taf.
C'est le truc explosif,
le son qui te fait tomber les diffs.
Mec, t'as pas les toffes, file une tarte de ton slip.
C'est le truc explosif,
le son qui te rend dans la truffe.
Rap, mort, squelette, étrange cérémonie. Moche pit de fou provoque la stupégémonie. Des psalmodies, psalmodies sur cette boucle circulaire. Circuler, y'a rien à faire, personne ne cautionne tout ce cirque alors. Bouge tes cartilages, je veux te voir te désosser, désaxer, sortir de ce corps. Et tout casser, tu penses qu'à ça. T'aimes les sanglots comme un crustacé, t'en as pas plus cassé, tu sais que c'est beaucoup plus que ça. Que ça.
Truc explosif de Stupéflip dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, un trio explosif, Amélie Beaucourt, Fanny Blechner, Sébastien Gédor. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors Sébastien et Amélie sont excités comme des gamins aujourd'hui, Fanny, parce que vous leur avez promis que vous alliez les emmener à la fête foraine.
Ouais.
Ah bah, je crois qu'il y a un... Non, je crois qu'il y a un malentendu. On est quand même une émission culturelle, donc non, moi j'avais prévu plutôt de vous emmener... Non mais notez bien la nuance, à la foire foraine d'art contemporain. Ouh. C'est en ce moment au 104 à Paris, bon, au programme amusement, rassurez-vous, mais aussi œuvre d'art.
Ambiance un petit peu plus groovy chez vous, Sébastien.
Oui, avec Bibi Tanga et son nouvel album Same Tree, le bassiste et chanteur d'origine centrafricaine, avec
son groupe venu d'ailleurs, les Sélénites.
Mais pour commencer, littérature dans VMD. Et à l'occasion du Festival America qui se tient ce week-end à Paris, vous avez rencontré Amélie Stephen Graham Jones, un auteur à succès américain. Il a 21 œuvres au compteur, essentiellement des romans courts, sans parler des recueils de nouvelles. Et puis, il a aussi une multitude de prix du meilleur roman d'horreur à son tableau de chasse. Alors, Stephen Graham Jones, c'est un peu en fait l'héritier de Stephen King, m'avez-vous dit Amélie, le maître de la littérature d'épouvante. Et son dernier roman, Nous y voilà, vient de paraître en France aux éditions Rivage Noir. Il s'intitule « Un bon Indien est un Indien mort ».
Oui, alors comme dans tous les romans d'horreur, il faut d'abord planter le décor pour s'immerger à 100%. Cette histoire, elle se passe dans le Montana, donc c'est au nord-ouest des États-Unis. C'est un territoire où la nature est omniprésente, juste en dessous du Canada. On a les montagnes des Rocheuses au nord et les grandes plaines au sud. C'est aussi le territoire de nombreuses nations indigènes qui vivent notamment dans les réserves indiennes, ces petits morceaux de terre qui ont été concédés par le gouvernement américain au peuple premier à la fin du 19e. Et si je vous parle de ces réserves, c'est parce que les quatre personnages principaux du roman y sont nés, dans la réserve des Blackfeet pour être plus précis. Quatre amis d'enfance, Ricky, Cass, Louis et Gabe, à qui l'auteur a consacré chaque fois une partie du roman, quatre parties détachables, un peu comme des pièces de puzzle, mais qui n'ont finalement de sens que lorsqu'elles sont rassemblées.
Je voulais montrer une image plus large de la vie des natifs américains, montrer ce que ça signifie d'être un Américain dans le Montana des années 2017-2018. Lewis, c'est l'une des facettes du kaléidoscope. C'est un indigène qui a quitté la réserve, qui travaille pour le service public américain, mais je voulais aussi parler de ceux qui sont restés au sein de la réserve, avec la communauté, pour mettre en relief les contrastes, les différences et les points communs entre toutes ces vies.
To show the contrast, you know, the differences and the similarities too.
Alors justement, qu'est-ce que ça signifie être Blackfeet dans le Montana en 2017 ?
Alors on a quatre expériences différentes évidemment, mais globalement ce qui saute aux yeux, c'est une certaine marginalisation de la part du reste de la société. Louis, par exemple, dont parlait à l'instant Stephen Graham Jones, qui est d'ailleurs le personnage auquel il s'identifierait lui le plus, vit à l'extérieur de la réserve. On pourrait croire qu'il a une vie peut-être un peu plus libre. Et pourtant, Louis porte évidemment les traits physiques de sa tribu, et au Montana comme ailleurs d'ailleurs, lorsqu'on a la peau un peu plus foncé que le colon, la police n'est jamais très loin.
Il faut rester sur ses gardes en permanence. Dans le Montana et dans l'ouest de l'Amérique en général, vous pouvez être arrêté au volant juste parce que vous êtes amérindien. Si vous avez une plume accrochée à votre rétroviseur ou si vous avez de longs cheveux et la peau foncée, on peut vous arrêter et fouiller votre véhicule sans raison. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais juste à cause de la couleur de votre peau.
Un racisme latent qu'on sent tout au long du roman, mais qui provient aussi de l'autre côté de la frontière avec la réserve, car Lewis s'est marié avec une blanche.
You do get some looks.
Quand vous êtes amérindien et que vous épousez une femme blanche ou un homme blanc dans le sens inverse, il y a souvent des regards de travers, et en particulier de la part de votre propre communauté. À leurs yeux, vous êtes presque une sorte de traître. Pour eux, ça veut dire que vous allez mélanger, diluer votre sang, ce qui finalement est une autre forme de racisme. Ce n'est pas le propre des Blancs. Les Amérindiens aussi peuvent être racistes.
Alors vous nous avez parlé d'horreur, Amélie, à quel moment on frissonne dans la lecture de ce roman ?
Alors assez vite, parce qu'on se rend compte que nos personnages ont un souvenir commun, un souvenir un peu traumatisant, celui d'une partie de chasse au caribou qui tourne mal. Alors c'était il y a longtemps, mais ça les hante encore aujourd'hui, et c'est là qu'on entre dans le fantastique avec ce qu'il a d'angoissant. Le souvenir va prendre la forme de créatures étranges, les fantômes du passé ressurgissent, et nous voilà plongés dans un véritable film d'horreur. On ne sait plus si c'est l'esprit tourmenté du personnage qui lui joue des tours, aussi cette créature surnaturelle est vraiment là, devant lui. En tout cas, elle n'est pas là par hasard.
Je pense que chaque être humain est fait d'une accumulation de regrets et de désirs. D'un côté, il y a tout ce qui vous fait envie, une vie meilleure pour vous et vos enfants, une voiture, une maison ou tout un tas d'autres choses. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qu'on traîne derrière nous. Ce sont nos fantômes en quelque sorte. On regrette de ne pas avoir été plus gentil avec un tel il y a 10 ans. On regrette de ne pas avoir pris telle ou telle décision il y a 5 ans, etc., etc. On est tous hantés d'une façon ou d'une autre. Et la fiction permet de personnifier tout ça à travers des monstres ou des fantômes. Mais au fond, ce sont juste les miroirs de nos regrets. Into ghosts or monsters or whatever.
It's just regret to me. Alors, tout dans ce roman s'emboîte parfaitement pour créer une atmosphère angoissante sur fond de conflits sociaux et de post-colonialisme. Le rythme, le mot juste, le style, la complexité des protagonistes, les dialogues. Parce que Stephen Graham Jones, je ne l'ai pas encore mentionné, mais il est professeur à l'université Boulder au Colorado, où il donne des cours d'écriture d'invention et de fiction. Il fait partie d'un courant littéraire qu'on appelle Renaissance amérindienne, qui célèbre la publication depuis les années 70 de nombreux auteurs qui ont baigné dans cette culture des Premières Nations américaines. Ça se ressent ici notamment par la forme que prennent les créatures qui hantent les personnages, hein, puisqu'ils les empruntent à la mythologie Blackfeet. Pourtant, comme ces personnages, Stephen Graham Jones, il ne veut pas être associé exclusivement à ça.
C'est parfois très lourd à porter. Ce n'est pas seulement le poids de l'histoire, ce sont aussi les attentes de votre propre culture. Lorsque vous êtes indigène aux États-Unis, et en particulier un artiste indigène, vous avez des responsabilités sans l'avoir demandé. Vous avez un rôle de représentation ou de résistance. Ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est beaucoup de pression. Pour ma part, je pense que l'art ne devrait jamais porter autant de responsabilités. Il devrait être à la fois un caillou dans la chaussure quand ça lui chante, mais ne pas rester cloisonné à un combat. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le pratique.
Un bon Indien est un Indien mort, hein, ou The Only Good Indian, si vous voulez le lire en anglais. En évitant évidemment de le lire dans le noir quand vous êtes seul ou autour d'un feu de camp à la nuit tombée, enfin, ça c'est du bon sens, hein, ou dans le train fantôme d'une fête foraine, Fanny.
Le livre est paru, on le rappelle, aux éditions Rivage. Merci Amélie. Bah le voilà, l'air de la fête foraine, il flotte même dans l'air grâce à vous Fanny, comme une odeur de barbe à papa.
Barbe à papa, gaufres, pommes d'amour, barbe à papa aussi, comme ces petits jetons en plastique que j'ai rapportés. Est-ce que je vous emmène aujourd'hui au 104, c'est à Paris, centre culturel qui accueille en ce moment une foire foraine d'art contemporain. Donc c'est un mélange, vous l'aurez compris, entre deux événements qui souvent se distinguent par la forme et par le public qu'ils attirent. Alors pour vous, petite question, quels sont les éléments indispensables à une fête foraine ? Fête foraine, je précise, un peu rétro.
Les peluches. Le chamboultou.
Avec les pinces.
Bah, oui, les pinces, le chamboultou.
Le train fantôme.
Oui, le train fantôme.
Ah, le train fantôme.
Les vieux manèges.
La pêche à la ligne aussi.
Oui, il y a tout ça. Et donc surtout, vous m'avez parlé du train fantôme. Alors le train fantôme, en l'occurrence, il s'appelle un train fantasme. On monte dans un petit train plongé dans le noir.
On y voit peut-être pas la même chose.
On va voir plusieurs œuvres d'art en fait. Notamment, vous les avez entendues, des scies circulaires pendues au plafond, éclairées par une lumière saccadée. C'est une œuvre qu'a conçue pour l'exposition Delphine Reist avec forcément certaines contraintes.
Le spectateur ne gère pas ce qu'il regarde et la vitesse à laquelle il circule. Donc ça, pour moi, c'était tout à fait nouveau dans le travail de la scansion des choses. Le train fantôme, c'est un lieu dans lequel on a des informations dont on n'arrive pas à reconnaître la source, parce qu'elles proviennent de choses qui vont arriver. Et puis ensuite, on a des informations dont on connaît la source, par exemple, en l'occurrence, là, des scies circulaires qui fonctionnent. Et puis ensuite, quand on va continuer le train fantôme, on va toujours entendre ces choses. Ça va créer des sortes d'images souvenirs, comme ça. Donc il y a toute une espèce de récit qui se construit.
Alors, de vous à moi, Fanny, on est entre nous, là. Hein, oui. Personne n'écoute, évidemment. Est-ce que vous avez eu peur ?
Non, déjà parce que je suis très courageuse.
C'est une grande fille.
Et oui, déjà. Et puis, c'est plutôt intriguant, mystérieux, bon, un peu impressionnant quand même, surtout pour les plus petits, notamment quand on se retrouve face à un extrait du Chien andalou de Louis Buñuel. Vous savez, le fameux moment où on voit un œil en gros plan se faire sectionner par une lame de rasoir.
Voilà, c'est bien. De gâcher notre prochaine vie,
ouais. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de jouer avec les codes et les émotions liées à la fête foraine. C'est ce qu'explique le directeur et commissaire de l'exposition, José Manuel González.
La peur, le rapport de force, les jeux d'argent, il y a des créations et il y a des œuvres qu'on va voir pour la première fois
ensemble, et puis surtout certaines œuvres qui sont historiques et qu'on va pouvoir pratiquer. L'idée, c'est qu'on va pratiquer l'art. Par exemple, Orlan a deux œuvres ici qu'on a souvent vues dans des musées, et souvent on les voit, elles sont magnifiques, mais on ne peut pas jouer avec. Notamment, c'est une sorte de chamboule-tout, et on dégomme des parties du corps de Orlan, qui est une figure mythique, évidemment. Pierre Ardouvin, qui est la pièce que vous voyez derrière, qui sont en fait quatre canapés qui sont alignés sur un manège, qu'on voit souvent dans les musées tourner comme ça à l'infini, mais dans lesquels on ne peut pas s'asseoir, c'est un vrai manège.
Donc des manèges, des artistes plus ou moins connus, je me souviens très très bien de l'émission avec Orlan qui était vraiment, vraiment formidable. Quoi d'autre au 104 dans cette fête foraine d'art contemporain, Fanny ?
Et bah forcément des enfants, c'est quand même un autre élément clé de la fête foraine. Là c'est Ellis, il m'a dit de le prononcer avec un accent anglais, qui sort juste du chemin des illusions, un peu désorienté.
J'ai vu plein de miroirs et je savais pas où j'étais.
Donc c'est une sorte de palais des glaces signé Julio Leparc, des miroirs fixés au sol et qui tournent sur eux-mêmes, le tout dans un décor fait de lignes noires et blanches.
Et puis vous m'aviez aussi parlé, Fanny, d'un piano fantôme.
Oui, un piano qui joue tout seul. C'est l'œuvre cette fois de Véronique Bellan qui s'appuie sur le recoupement de plusieurs informations propres à chaque visiteur.
Le rythme cardiaque, la température de la peau, le poids de la main, la conductance. Et donc toutes ces informations sont traduites dans un premier temps sous forme photographique. Donc le spectateur voit apparaître son aura, donc l'électricité qui passe à travers lui. Et toutes les données servent à nourrir un algorithme en fait, qui a appris à composer la musique. Donc chaque personne crée sa propre musique personnelle qui correspond à son état physiologique, à son état d'âme. Ce qui m'intéresse en fait, c'est tout ce qui est invisible à échelle humaine. Parce que finalement, on a une bande passante qui est assez limitée. On voit des choses, on entend des choses, mais on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Voilà, l'univers est peut-être plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir à tous les jours.
Donc vous avez testé, vous avez vu apparaître votre aura.
Oui, votre aura.
Fanny, à quoi elle ressemble, votre aura
conductance ? Non, moi je ne l'ai pas fait, j'ai laissé les autres spectateurs en profiter. En revanche, dans le même espace, il y avait un petit stand divinatoire, donc j'ai tiré un petit papier, et tenez-vous bien, voilà ce que me réserve 2023. Votre génie inconnu, entouré par la médiocrité, sera enfin reconnu au grand jour. Grâce à vos dons naturels reconnus à leur juste valeur, vous serez convié à tous les cocktails dans les consulats et les ministères. Vous serez contacté par un agent littéraire, cela sera sanctionné par la commande d'une préface pour l'écrivain Welbeck. Votre rédaction obtiendra un grand succès auprès des critiques en vue. Votre beach body épatera vos collègues de travail. Attention tout de même à ne pas narguer vos nouveaux amis littéraires au corps incertain. J'espère que vos corps incertains ne le prennent pas trop mal.
Septembre, ça, on a encore un peu le temps pour se préparer.
Donc, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal d'humour aussi dans cette foire foraine. Mais l'aspect divertissement, il gêne un peu certains, comme Gaspard qui est venu avec ses enfants, Anouk et Pablo.
Pour moi, c'est une séquence ouverte avec Warhol et le Pop Art qui ouvre aussi une sorte de marché de l'art de salon où c'est plutôt l'aspect spectaculaire ou divertissant qui prime sur le propos ou le contexte ou la politisation de l'œuvre. C'est quand même ce qui se fait beaucoup. Enfin, il y a de plus en plus d'expos, en tous les cas à Paris, sont vachement liés à soit une dimension spectaculaire, soit une dimension très divertissante. C'est bien que ça existe, après c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans l'art, mais ça permet de venir avec les enfants. C'est quand même vachement plus accessible que du Anselm Kiefer par exemple pour un enfant de 6 ans. Là ils sont vachement fascinés par la carabine parce qu'ils pensent pouvoir gagner un nounours, mais quand ils vont savoir que c'est des cartes de l'artiste, peut-être que ça va moins les intéresser, je sais pas.
Bon, et cette fois, vous avez testé, Fanny ?
Oui, cette fois, j'ai testé. Et en plus, le tir, c'était une grande première pour moi. D'autant qu'ici, on vise des œuvres d'art.
Bon, bah alors, je t'explique rapidement. En fait, tu positionnes ça sur ton épaule.
Ouais.
Sur l'épaule. T'es droitière ou gauchère ?
Droitière.
D'accord. Donc, tu positionnes ça sur ton épaule comme ça. Voilà.
Ok.
Là, tu veux que je te tienne le micro, peut-être ?
Je vais essayer de tout faire en même temps.
Ah, ça sera compliqué parce qu'en fait, tu as besoin des deux mains.
Ah, bah, je veux bien que tu me le tiennes.
Hop
alors.
Là. Et maintenant, t'essaies de positionner ça ici et de viser sur la cible de ton choix.
Ok. Alors, on va dire le cri.
Vas-y. Ah, dommage. Un peu.
Alors, bon, je vois quand même venir mauvaise langue. Oui. Sachez que j'ai réussi mon deuxième essai. Bon, et puisqu'on parlait divertissement et politique à travers cette œuvre d'art, Pilar Albarracín, elle nous parle de la violence, de l'art. Il y a plusieurs œuvres engagées ici quand même, comme le stéléroscope de Julien Salo, un cylindre et une lumière noire stroboscopique qui donne l'impression que les animaux dessinés donc sur ce cylindre s'animent et que les oiseaux s'envolent. Au fond, on trouve les portes de l'enfer.
Il y a des évocations de grosses problématiques écologiques comme les pesticides ou les éoliennes pour les chauves-souris ou les martinets. Et tout ça sur une musique qui est le son d'un trou noir. Donc on est un petit peu dans la foire, mais on est aussi un peu dans des images angoissantes parce que notre monde actuel et contemporain est à la fois magnifique, très amusant et très angoissant dans ses perspectives.
Voilà, on frissonne donc autant qu'on s'émerveille dans cette foire foraine d'art contemporain. Fanny, c'est à Paris au 104 et on a donc jusqu'au 29 janvier. On a encore un petit peu de temps pour en profiter.
Pour s'exercer au tir.
Faites-moi quand même la promesse, Fanny, que si jamais en 2023 vous devenez effectivement la préfacière de Michel Houellebecq, vous l'emmènerez ici dans le studio.
Ah bah surtout, vous pourrez commencer à m'interviewer bientôt, je pense.
Et ben voilà, le rendez-vous est pris alors.
C'est vraiment ça que je cherche à travers toutes les musiques et à travers tous les arts. C'est le respect du rythme. Donc ce qu'on appelle le groove, quoi. One side of your face,
the good one. Incarnation du groove, Bibi Tanga, est en concert ce vendredi soir à la petite halle de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Sébastien, le bassiste et chanteur français d'origine centrafricaine, vient de sortir un nouvel album, Same Tree. Sébastien, c'est donc un mot d'abord, hein, peut-être pour commencer, oui, évidemment, sur ce groupe qui accompagne Bibi Tanga, les Sélénites, des musiciens qui sont donc un peu comme Amélie, quoi, qui sont un petit peu dans la Lune.
Oui, c'est ça, les Sélénites, traduction étymologique, effectivement, les habitants de la Lune. Pour ce groove diabolique, il n'y avait apparemment pas de musiciens assez puissants sur Terre. Il a donc fallu aller les chercher un petit peu plus loin. Les Sélénites se sont rencontrés il y a 14 ans autour de Bibi Tanga, à la basse et au chant. Donc, il y a aussi le professeur inlassable, identité secrète, au platine, un violon, un clavier, un guitariste et un autre batteur. Les Sélénites, un groupe et une méthode de travail qui part de l'improvisation.
Oui, carrément, c'est un peu notre façon de faire. À chaque fois qu'on se voit, on joue, on fait de la musique. Et au bout d'un certain nombre de mois, de semaines, voire d'années, comme c'est le cas pour ce disque-là, on a plusieurs morceaux et puis on commence un peu à les arranger. Mais c'est vrai que ça part vraiment d'improvisation. Et après, on commence à arranger le tout, quoi.
Donc on garde quand même ce côté improvisé d'origine, même si tout ça est retravaillé.
Bien sûr, on le garde parce que c'est aussi l'essence de... C'est ce qu'on aime faire, c'est le live. C'est-à-dire qu'effectivement, on adore faire des disques, mais on est un peu à l'ancienne, comme il y a 100 ans, quand je dis 100 ans, ouais, peut-être un peu moins, quand Duke Ellington et toute leur clique faisaient des disques pour faire la promotion de leur tournée. Nous, on est un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on adore faire des disques, on adore être en studio, mais l'important, c'est le live.
Bon, pas de doute, ça trompe pas, Sébastien à l'oreille, Bibi Tanga, c'est un adorateur de funk.
Oui, tendance George Clinton ou Curtis Mayfield, des disques qui sont très très hauts dans son panthéon. Mais Bibi Tanga, 53 ans, s'est nourri aussi de la musique de Bob Marley. Il s'est adonné au punk et à la new wave dans une autre vie. Mais sur cet album, comme sur les précédents, l'anglais n'est pas la langue hégémonique. Il y a plusieurs titres en sango. Le sango, c'est la langue nationale et une des langues officielles de la Centrafrique. Par exemple, le morceau qu'on écoute, il s'appelle Kindagozo. Ça parle des sauterelles, vous savez, celles qu'on grignote, grillées, qui croquent sous la dent. Je vois que vous en salivez déjà.
Fanny adore. Oui.
Alors j'ai demandé à Bibi Tanga s'il y avait des expressions, au-delà de cette histoire de sauterelles, qui passaient mieux en sango que dans une autre langue. Réponse en version originale.
Binga paminaya da bani son bipe tenege, mais zasi, zambigibet mikete. Ah, déjà, je viens de dire zambigibet mikete. Ou bien zambigilit mikete. Laisse-moi chercher dans ma tête, mais c'est-à-dire laisse-moi chercher ma tête, j'aime bien ça. Quand on traduit littéralement, laisse-moi chercher mon cœur, laisse-moi chercher ma tête, c'est-à-dire laisse-moi réfléchir un peu. Il y a ce côté un peu. Un truc que j'aime bien, quoi. C'est-à-dire que je trouve que l'image qui est montrée quand on dit une phrase, elle correspond vraiment à ce qu'on recherche, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on réfléchit, on est en train de se triturer la tête. God will wisely make his choice. No one could make it better. Whatever we go through, joy and pain, there will be return forever.
quelques mesures de Same Tree, la chanson de Bibi Tanga qui donne donc son titre à son nouvel album, Sébastien.
Same Tree, le même arbre, le même tronc, pour dire que noir ou blanc ou autre, nous avons tous les mêmes racines. Bibi Tanga qui a beaucoup voyagé avec son père qui était diplomate, en est convaincu. La musique sert aussi à passer des messages.
Ah bah carrément, carrément, c'est pas un art mineur, quoi. C'est vraiment comme tous les arts d'ailleurs. Aucun art n'est mineur. Mais effectivement, ce sont des vrais outils, ce sont des vraies armes. Parce que quand on va en soirée et qu'on danse, on a quand même un moment de communion. On ne connaît pas forcément tout le monde sur la piste de danse, mais c'est une arme qui fait qu'on peut se retrouver et se dire oui, c'est possible de faire des choses ensemble. Et c'est important pour moi, ça l'a toujours été. Mais c'est vrai que c'est un peu plus marqué sur cet album, très certainement. Ouais.
Discours de tolérance que Bibi Tanga a effectivement toujours porté, Sébastien.
Oui, et même aux heures les plus sombres qu'a traversé son pays d'origine, la Centrafrique, les affrontements entre milices qui instrumentalisaient les religions, aujourd'hui l'emprise du groupe de mercenaires russes Wagner, Bibi Tanga cherche à rester optimiste.
Avant tous ces événements, on a tendance un peu à oublier, c'est que c'est quand même des populations qui sont très attachées à la paix, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le vivre ensemble, c'est un truc qui a été naturel pendant des décennies et des décennies. Bon, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, les choses sont un petit peu remises en question, mais c'est quand même un élément qui revient régulièrement dans les discussions. C'est-à-dire que, voilà, c'est la paix, quoi. On cherche, il dit Cyrilie, on cherche la paix. Cyrilie, c'est la paix. On cherche ça, c'est un truc qui revient régulièrement dans la bouche des gens.
Et ce discours, il est audible en Centrafrique aujourd'hui ?
Oh, bien, oui, il est audible, bien sûr. Mais après, c'est clair que les gens, à différents niveaux, ont beaucoup souffert. Il y en a qui ont énormément souffert. Il y a encore certainement du ressentiment et tout ça, mais je trouve quand même qu'il y a cette volonté réelle de retourner vers la paix, parce que c'est tellement agréable de marcher dans Bangui. Je me souviens encore, quand j'étais un peu plus jeune, de marcher dans Bangui, de PK12 jusqu'à kilomètre 5 tranquillement, sans aucun problème. Ça, c'est un souvenir que les gens ont encore dans leur... les gens de ma génération, et même des plus jeunes, ont encore dans leur esprit. Donc on veut revenir à ça. Trouble, I don't. I'm walking down the street, finger on the trigger, killer on the beat. I'm looking for trouble, I am blind, looking for trouble with your kind. Trouble, I don't mind, if you look for trouble, I don't mind.
Il y a ce concert donc ce soir à la petite halle de la Villette à Paris, mais Bibi Tanga espère aussi redonner des concerts à Bangui avec les Sélénites. Ce soir-là, alors, la lune baignera la capitale centrafricaine d'une lueur encore plus douce. Take it down, but we're gonna make you cry. There's too much trouble, like you around. Too much trouble in our nice neat town. La musique et la voix de Bibi Tanga pour terminer ce café gourmand de VMDN. Merci Sébastien, merci également à Fanny et Amélie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise Germaine Aconi. Et vous m'en direz des nouvelles. I'm not looking for trouble, I'm just a bad dude.